Alors, de quoi on va parler? Alors, j'ai plein de questions sur plein de choses.
Mais on va commencer simplement par ta première voix.
Hyper travaillée, c'était quoi?
Est-ce que c'était un défi, surtout? Ou est-ce que tu cherches justement des voix qui ne sont pas ta voix?
Alors, je pense que c'était dans... Ça s'appelait Mar. C'était en 2007 ou 2008, c'était vraiment un de mes premiers rôles. Et ben là, en fait, le personnage était un peu rigolo, il était petit, violet, donc il fallait lui trouver un peu une voix un peu aiguë. Je l'avais pris un peu... Moi, je l'ai fait parler comme ça, parce qu'il était mignon, il était... Puis il était un peu méchant en même temps. Voilà, donc c'était ça. C'était la première fois que j'avais vraiment à travailler ma voix. En fait, en général, quand on a un personnage comme ça, parce que souvent, on modifie la voix parce qu'on en a un autre. Quand on n'a pas les rôles principaux, très souvent, on va devoir faire plusieurs personnages. Donc, on va réfléchir avec le directeur artistique à quelle voix on peut faire pour chaque personnage pour que si on est amené à se parler, on puisse être différencié. Donc, on essaye au maximum. Ce qui est bien avec les animés, c'est qu'on peut se permettre de caricaturer un petit peu. Et voilà, donc là, j'avais déjà un personnage dedans. D'ailleurs, c'était même pas ma voix naturelle, c'était plus il parlait un peu comme ça parce qu'il était méchant. Et voilà, et donc j'ai proposé quelque chose au directeur artistique et il m'a dit ça c'est très bien et on est parti là-dessus quoi.
Et tu peux perdre une voix comme ça, on va dire, là, tu l'as trouvée, mais au bout d'un moment tu sais plus la faire.
Alors, c'est pas que je sais plus, mais si effectivement par exemple tu l'as doublé un jour et puis que tu le redoubles 6 mois après, parce que voilà, il y a eu le temps avant l'enregistrement, souvent tu as oublié comment tu l'as fait. Mais en général, dans ces cas-là, le directeur artistique ou l'ingé son te refont écouter ce que tu avais fait. En le réécoutant et avec l'image, en général, on retrouve techniquement ce qu'on avait fait et on retrouve la voix.
Ton appétence pour les animés, c'est venu comment? C'est juste toi, tes goûts personnels?
Ouais, c'était mes goûts personnels. Alors, il se trouve que j'ai doublé beaucoup d'animés parce que je me suis retrouvé, quand j'ai commencé, avec... Une association, puis qui est devenue une boîte de doublage, qui était spécialisée dans les animés. Donc finalement, c'est un peu malgré moi que j'ai commencé par les animés, mais j'étais très content parce que j'étais ultra fan des animés. Et après, l'amour des animés, il m'est venu de quand j'étais petit. Moi, je suis la génération Club Do, donc c'était les Chevaliers du Zodiac, c'était Dragon Ball, Nicky Larson, tout ça, ça me faisait rêver et c'était mon rêve un jour de pouvoir... je m'en suis pas rendu compte tout de suite quand j'étais gamin, mais voilà, plus tard, je me suis rendu compte que quand j'ai doublé Natsu, par exemple, j'ai réalisé un rêve de pouvoir crier des pouvoirs, de interpréter un rôle de shonen, quoi. C'était assez fou.
Et tu t'imitais des voix connues, justement, Soleil Zodiac ou des choses comme ça?
J'imitais beaucoup, alors pas dans les animés, mais j'imitais beaucoup Jim Carrey. Voilà, j'étais très fan de Jim Carrey et du comédien qui le double, Emmanuel Curtil. Donc ouais, je connaissais par cœur, il y avait plein de films et plein de séries où je citais les répliques par cœur en les interprétant. Donc ouais, dans les animés, je crois pas qu'il y en ait un que j'imitais vraiment. Ouais. Parce que c'était pas assez particulier pour ça.
Est-ce que tu cherches des projets proches de ce que tu regardes ou pas du tout?
Alors pas du tout, en fait, nous on choisit rien du tout. C'est vraiment les directeurs artistiques qui nous appellent en nous demandant « Est-ce que tu es disponible tel jour pour doubler telle chose ?» Nous, les comédiens, on choisit absolument rien. On dit oui et puis on y va. Et donc, en fait, c'est la chance qui fait des fois être sur des rôles, chouette ou pas. La majorité du temps, on trouve quand même de quoi s'amuser. C'est aussi l'intelligence des directeurs artistiques qui va beaucoup jouer en se disant « Tiens, ce rôle, il pourrait lui correspondre, même s'il ne le fait pas d'habitude, ça peut être intéressant. » Et des fois, on fait des très belles rencontres et ça a été le cas sur plein de rôles, quoi.
Et du coup, tu peux dire non?
On peut dire non.
Pas par rapport à un problème de planning.
Oui, je vois ce que tu veux dire. Non, parce qu'on n'a pas envie. Alors, je vais pas te mentir, on le dit jamais parce qu'on a toujours besoin de bosser. Ouais. Et que même si le rôle est un peu moins intéressant, par exemple, on a tous doublé énormément de téléfilms, TF1, M6, où il n'y a pas grand-chose qui se passe, quoi. Si tu veux, le rôle n'est pas fou. Mais il y a toujours de quoi s'amuser, c'est toujours chouette. Et puis même si c'est un rôle qui n'a pas tes convictions, moi, je pars de l'idée qu'on est comédien et que même si tu dois faire le pire des nazis, c'est pas parce que tu penses comme lui, c'est juste que tu es comédien, tu vas jouer le pire des nazis. Et puis, c'est même super intéressant de s'imaginer ce que pourrait penser une personne comme ça, si tu veux. Donc, tu le feras avec même beaucoup de plaisir, je pense.
Alors, rien à voir avec un personnage nazi, mais quel est le personnage le plus proche de toi que tu es doublé?
Il y en a pas mal. Je pense que si on reste dans les animés, ça va être sûrement Natsu.
À y regarder de plus près, je sais pas grand-chose sur toi non plus. Et pourtant... Je peux te battre!
Parce que Natsu, il fait partie de ces... Parfois, il y a des fusions qui se font, tu t'expliques pas, avec des personnages où tu vas commencer à le doubler et il y a une alchimie, malgré toi, qui se fait et t'as rien à faire, t'as juste à jouer les émotions et les sentiments. Natsu en fait partie. En sortant des animés, il y en a un avec lequel ça se passe aussi comme ça, c'est Levi Schmidt dans Grey's Anatomy.
La tension de votre père est toujours basse à cause de la déshydratation. On va lui poser un cathéter pour l'hydrater et lui administrer des médicaments.
où en fait je n'ai aucun effort à faire, j'ai même pas à réfléchir à ma voix, juste je joue ce qu'il y a à jouer et ma voix se place et il a le même genre d'énergie que moi, donc voilà, j'ai pas beaucoup d'efforts à faire à part savoir jouer à la comédie quoi.
Moi j'ai un grand débat que taraude un peu, c'est la qualité entre les voix françaises et les acteurs français.
Ouais.
Je trouve que les acteurs français la plupart du temps, ça joue mal, alors que dans le doublage, ils jouent très bien.
Je suis d'accord.
Alors que c'est juste en face d'un écran avec un texte qui passe. Alors pourquoi ?
C'est pas faux.
Est-ce que toi, t'as une idée ?
Je sais pas te dire, mais c'est vrai que pour moi, j'ai toujours considéré que les comédiens de doublage faisaient partie des meilleurs comédiens français. Surtout dans les années 80-90, ils étaient géniaux. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Peut-être aussi que... Alors, il y a un truc, c'est que quand tu doubles, t'es obligé de t'oublier toi. T'es obligé de t'incarner le personnage que tu doubles, de te mettre dans sa peau. Donc, les comédiens, on a un gros défaut, c'est qu'on a tendance à se regarder quand on joue. Et quand tu doubles, tu peux pas te regarder. Tu regardes que le... Donc, peut-être que ça apporte ce côté... on se perd et donc on ne réfléchit plus et on ne fait que jouer. Et peut-être que certains comédiens français ont tendance à, effectivement, à beaucoup se regarder ou à réfléchir, je vais faire cette phrase de telle manière ou de telle manière. Ça peut expliquer. Mais je ne saurais pas dire exactement pourquoi, mais ça peut être une théorie.
Vous faites plus d'efforts, en fait. Vous projetez, vous devez vous projeter.
On doit se projeter et surtout, vraiment, on doit complètement s'oublier. Il n'y a aucune question d'ego ou de... Ouais, c'est même pas nous qu'on doit mettre en avant, c'est vraiment ce qu'on double. Donc, on ne réfléchit pas. On ne fait que... On passe derrière une personne qui a déjà fait le taf pour nous. Et nous, notre travail, c'est de comprendre ce qu'il a fait et de refaire la même chose. Et je pense que c'est peut-être pour ça qu'on est plus... Après, tous les comédiens de doublage ne sont pas non plus très très bons. Et il y a quand même des acteurs français qui sont chouettes.
Oui, oui, c'est ça.
Il y a aussi, je pense aussi une chose, moi très souvent, ce que je reproche aux acteurs français, c'est l'articulation. C'est que pour un semblant de naturel, ils vont avoir tendance à perdre leur articulation. Alors que nous, dans le doublage, on est obligé de vraiment faire attention à ça pour que tout soit bien compris. Et même, on refait plusieurs fois les prises quand c'est pas bien articulé. Donc peut-être que ça joue aussi, ça, ouais.
Côté série, les 5 séries de ta vie.
Ok, les 5 séries de ma vie. Il y a Dexter,
Lost.
Putain, j'en ai que 5. C'est dur. J'en ai que 5. Il y en a trop. Dans les récentes ou dans les anciennes, il y aurait sûrement, je mettrais Friends et How I Met Your Mother à peu près au même niveau parce que c'est un peu la. Voilà, je peux pas différencier, ça en fait 3. Je crois que Scrubs a énormément joué aussi dans ma vie. Et le dernier, si j'en ai droit à une dernière, il y en a tellement des séries que je kiffe. Et là, je n'arrive pas à y penser dans les anciennes. Allez, très vieux, mais qui m'a marqué énormément, c'est Code Quantum. Okay.
Voilà. Et tu aurais préféré faire une voix dans Lost ou dans Friends, par exemple ?
Dans Lost.
Ah ouais ?
Je pense que j'aurais préféré. J'adore faire l'idiot, enfin j'adore jouer la comédie pour que ce soit drôle. Et d'ailleurs Friends, en fait, ils font pas les idiots, ils jouent tellement, ils interprètent très bien. Donc, mais Lost, je sais pas, l'univers, le truc, faire partie de cet univers qui est tellement génial, si tu veux, ça m'aurait fait vraiment triper de faire partie de tout ça, ouais.
Doubler une série que tu vas pas regarder, enfin, tu vas pas forcément regarder.
Ouais.
Ou alors que tu doubles dans le désordre. Est-ce que l'implication, est-ce que tu comprends ce que tu fais ?
Très souvent, on ne comprend pas. Mais c'est ça,
c'est ça.
Mais en fait, c'est ça la magie du truc, c'est que très souvent, on n'a même pas le temps. Le DA va juste nous dire rapidement, il se passe globalement ça, ton personnage, il est un peu comme ça. Mais nous, on va se concentrer sur jouer la situation. Si tu joues la situation sans te poser de questions, si tu joues, des fois, ça peut t'aider qu'on dise, par exemple, ton père est mort à ce moment-là, ça peut t'aider. Mais si tu joues la situation telle qu'a joué le comédien avant toi, tu ne peux pas te tromper. Quel que soit ce qui s'est passé avant ou après, même d'ailleurs, ça t'évite de te dire, tiens, dans Lost par exemple, Linus, moi je suis persuadé que l'acteur américain ne savait pas ce qui allait se passer après.
Are you the genius? Or are you the guy who always feels like he's living in the shadow of the genius?
Et que c'est pour ça qu'il est aussi juste dans le sens où il ne s'attendait pas à être la personne qu'on sait qu'il est après. Et je pense que ça aide vachement parce que tu es obligé d'être dans le naturel et. Ou alors il le savait, et c'est encore meilleur comédien que ce que je crois. Mais nous, c'est vraiment l'intérêt, c'est que si tu joues la situation, tu peux pas te tromper. Tu peux juste faire ce qu'il y a à faire et après, si ça devient autre chose, tant mieux, quoi.
Et ta position sur l'intelligence artificielle dans le doublage ?
Très dangereux et très inquiétant et on a tous très peur. Je ne sais pas combien de temps on a, mais globalement, l'intelligence artificielle, il y a deux gros problèmes qu'il va falloir, il faut trouver des solutions. La première, c'est le vol de nos voix, qui a déjà commencé. Il y a déjà plein de TikTokers qui utilisent nos voix, qui leur fait dire n'importe quoi. Ça, c'est dangereux. On est la première barrière, mais parce qu'on est les plus écoutés, mais ça entraînera qu'un jour, tout un chacun pourra utiliser sa voix pour lui faire faire n'importe quoi et lui faire dire n'importe quoi, des arnaques, des machins. Donc ça, c'est très dangereux. Donc il faut mettre une barrière dès maintenant, des protections, des lois contre, de protection de la... Parce que c'est notre... Et puis c'est du vol, c'est à nous, c'est notre propriété intellectuelle, ça n'appartient à personne d'autre, donc les gens n'ont pas le droit de l'utiliser. Et nous, quand on l'utilise dans les doublages, on signe un contrat pour leur autorisant de le faire. Donc ça, voilà, il faut faire attention à ça. Deuxième gros problème, et ça c'est plus pour le métier du doublage, c'est que ça risque un jour de faire disparaître le métier du doublage si on fait rien, parce que ça a déjà commencé. Les acteurs américains ont vendu leur voix, c'est-à-dire qu'ils ont accepté maintenant, si on leur donne un peu de l'argent, genre je dis une bêtise, 200 000 balles, on lui dit on te donne 200 000 balles et on peut utiliser ta voix et on la décline nous avec notre logiciel dans toutes les langues, dans tous les pays. Toi tu gagnes ça et tu nous l'offres. Il dit ok, les majors elles vont économiser 200 000 balles. À la place de des millions et des millions que coûterait une version dans chaque pays par rapport à tous les métiers qui entrent en jeu. Donc ça, c'est très dangereux. Et on n'a pas de choses pour se défendre parce que c'est à l'extérieur pour ça. Donc la défense qu'on a et qu'on essaie de développer, c'est de faire passer des pétitions pour faire réagir un peu les politiciens, déjà pour leur faire comprendre que le secteur du doublage, ça inclut énormément d'argent, de métiers. C'est des millions et des millions d'argent qui entrent en jeu. Donc c'est une vraie... c'est une vraie économie qui disparaîtrait. Et pour ça, il faut faire passer une loi qui obligerait les majors extérieurs, si elles veulent distribuer leurs produits en France, à ce que ce soit doublé par des acteurs français qui existent et pas d'IA. On peut réussir à faire passer une loi comme ça, mais il faut se bouger pour le faire et il faut le faire dès maintenant.
Est-ce que l'IA peut aider dans le métier quand même ?
Je pense que ça peut aider, mais l'IA, ça peut aider partout. Il faut que ça reste un outil. Il faut que ça, il faut pas que ça remplace la création artistique qui vient de l'humain et on ne peut pas remplacer ça. Nous, toutes les séries qu'on a aimées quand on était petit, c'est parce qu'il y avait un humain derrière qui a transmis ses émotions, qui a mis ses tripes. Et pour moi, une IA ne le fera jamais et ça n'est pas, et il ne faut pas qu'elle le fasse. Il faut que ça reste un outil.
Mais merci beaucoup.
Mais je t'en prie.